Midi 13h, à votre santé.
À votre santé.
Philippe Robichon sur Beurre FM.
Ah bien, ça, votre santé. Bonjour, bienvenue. On s'occupe de votre forme. Justement, on va se mettre en forme ce matin jusqu'à 13h avec Farid Meberki. Bonjour Farid.
Bonjour, bonjour à tous.
Coach sportif spécialisé dans les transformations physiques et vous êtes le créateur d'EvoluCorp. On en parlera tout à l'heure. EvoluCorp qui va faire des EvoluCamp pour l'été.
Des EvoluCamp, ouais.
Camp, on dit camp.
Camp.
Ouais. What is the principe of les EvoluCamp?
C'est des très très belles séances en plein air. On va profiter du soleil, de la nature pour changer un peu des salles de sport et on va s'entraîner dans un esprit très convivial en plein air en groupe. Donc ce sera le week-end, samedi ou dimanche selon les semaines et dans des parcs différents, dans plusieurs parcs de l'Île-de-France. Donc faut rester à l'affût des
D'accord.
infos.
Mais il faut s'inscrire avant. On peut pas rejoindre le groupe si on n'est pas inscrit en fait.
Vous pouvez, mais dans ce cas-là vous paierez sur place. Mmh. L'idéal c'est de s'inscrire sur le site evolucorp.com, donc dans la rubrique EvoluCamp. Nous ça nous permet d'avoir vraiment un retour sur les candidats qui vont participer et donc de pouvoir organiser des séances bien plus adaptées. Donc si vous êtes nombreux à venir sans inscription, peut-être
ouais, que... On peut pas adapter le programme.
Voilà, la séance, ça va être un peu plus difficile à adapter sur le moment.
C'est quoi le principe des séances?
Ça, de tout, il y a vraiment de tout. C'est pour tous les niveaux, pour tout le monde, tout âge. On va profiter des bancs, on va utiliser les bancs, les arbres, les escaliers, tout ce qu'on peut trouver dans les parcs, du petit matériel, ça peut être sans matériel, il y a beaucoup de choses, cardio, renforcement musculaire, abdos, un peu de tout, du travail en groupe, du travail individuel, très très varié.
Mais c'est quoi, on court,
on peut courir un peu, pas à toutes les séances, il y a des séances où on va courir un peu plus, d'autres un peu moins. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'activités, c'est jamais les mêmes séances. C'est très varié et surtout on passe un vrai bon moment. On passe vraiment un bon moment le week-end sous le soleil, ciel bleu, fait pas trop chaud en France donc
Attendez. Précisez-moi l'heure parce qu'attendez, il y a des choses qui le week-end c'est à quelle heure?
C'est justement ça a été une grande question. On est parti sur le dimanche de 11h à 13h.
Ah, ça va, c'est ça pas va. Le week-end ça va. Voilà, 11h, ça va.
Ça va. L'année dernière, on avait fait 10h midi et puis ça faisait un peu tôt pour certaines
c'est
personnes.
C'est déjà tôt, hein.
On a adapté à 11h.
Ouais. 11h. Bon, c'est tous les week-ends de l'été, donc si vous voulez vous remettre en forme, même si vous avez fait de la gym en EPS, hein.
Bien sûr.
Si c'est un vieux souvenir.
Bien sûr. Et vous avez des photos sur les réseaux sociaux. Vous avez même une superbe vidéo qui a été faite par Bertrand, s'il nous écoute. Franchement, chapeau le travail. Une superbe vidéo sur les EvoluCamp. Donc, si vous voulez voir à quoi ça ressemble, et vous avez des photos, et vous verrez que sur les photos, il y a vraiment de tout âge. Hein. On avait une maman assez âgée sur une session l'année dernière, une maman assez âgée voilée, vous la reconnaîtrez, et elle a très bien assumé. Hein. Ça s'est très bien passé.
Attendez, parce que des fois, le concept de âgée, ça peut ça évolue beaucoup.
Quand je dis âgée, j'ai pas demandé son âge, hein, mais c'était la maman d'une fille que je coachais et elles sont venues ensemble et elle a participé à l'EvoluCamp. Elle avait plus de 60 ans.
Ah oui, bon, ça va.
Ça va, c'est bon. Mais j'ai le droit de dire âgé à ce moment-là.
Ouais, et encore, à 60 ans, maintenant, on est jeune, hein.
C'est pas faux. Elle avait plus de 60 ans, en tout cas.
Bien, on va faire et profiter des conseils d'un coach pour se remettre en forme pendant l'été. Je sais pas ce qui se passe, mais l'été, les gens, ils sont pleins de bonnes résolutions, subitement. Ils ont pas fait de sport depuis je sais pas combien de temps, mais là, ils vont s'y mettre. Ça, c'est le bon moment pour s'y mettre, à bouger, à faire du sport. Alors, il y a deux cas. Il y a ceux qui vont partir au mois d'août et qui vont vouloir déjà avoir un corps de rêve au mois d'août. Alors là, ils vont tout déchirer en l'espace d'un mois. Et puis, il y a ceux qui profitent de l'été pour se remettre au sport. Déjà, quelle est la bonne question à se poser avant de s'y remettre?
Il n'y a pas de question à se poser. On s'y remet, on fonce justement. On arrête de se poser des questions et on y va. Il n'y a pas de... Tous les moments sont bons pour reprendre le sport. On parlait du ramadan, justement. Tous les moments sont bons pour reprendre le sport. On arrête de se poser des questions et de chercher des excuses à remettre ça au lendemain. Au contraire, on y va. L'été, c'est le bon moment pour sortir un peu des sentiers battus et puis justement des environnements un peu classiques, des salles de sport, etc. Donc ça peut être sympa de varier un peu les activités. Et puis souvent, les personnes travaillent un peu moins, donc ont un peu plus de temps, sont un peu plus sereines au quotidien. Donc ça permet de s'organiser aussi un peu mieux là-dessus.
Et c'est pour ça que les gens veulent profiter justement du beau temps, temps qu'ils ont en plus pour profiter de ces deux mois et faire du sport, pour se mettre au sport.
Exactement.
Alors il y a quelque chose d'assez humain, c'est qu'on n'a pas fait de sport depuis longtemps, mais subitement, alors là on veut tout déchirer. Et là, on veut tout faire d'un coup. C'est aller très vite. Comment est-ce qu'on peut freiner cette espèce d'idée qui subitement fait de nous des warriors?
Alors là, faut en parler. Faut m'en parler là. Faut m'en parler parce que justement cette idée-là, elle est dangereuse. Elle est bien.
C'est de tout donner tout de suite. Là, voilà, tu vas voir. Ça c'est bien. Je suis motivé, je suis à fond là.
Alors le bon côté, c'est que on va y aller quoi. On se pose plus de questions, on fonce tête baissée et on est parti surmotivé, survitaminé pour tout donner. Ça c'est la bonne chose. Mais la mauvaise chose, le revers de la médaille, c'est que on va s'attendre à beaucoup de résultats sur un laps de temps très réduit et on risque de s'essouffler. Si vous donnez trop d'efforts, trop d'un coup, vous allez vous essouffler très vite et vous allez pas pouvoir tenir ces efforts-là sur le long terme. Or, conjuguer le sport avec le court terme, ça n'a pas de sens.
Pourquoi ?
Ça n'a pas de sens.
C'est mieux que rien.
Si ça peut vous permettre de continuer derrière sur le long terme et de garder un minimum d'hygiène de vie. Dans ce cas-là, oui, mais si vous pensez faire juste du sport pendant un mois et après tout arrêter, c'est un peu dommage, quoi. C'est un peu dommage. Donc plutôt que de tout donner d'un coup, on va lever, j'aime pas trop dire ça, mais on va lever un peu le pied de façon à ne pas trop choquer l'organisme, de façon à lui laisser le temps de s'adapter, ne pas s'épuiser pour pouvoir tenir ces efforts-là sur plusieurs mois, voire plusieurs années.
D'accord. Mais alors, comment est-ce qu'on fait pour trouver le bon rythme de départ, le bon rythme avec lequel on va commencer ?
Ne vous mettez pas la barre trop haute. Donc, pensez à vos contraintes du quotidien, vos horaires de travail, vos activités personnelles, etc. Et essayez de caler vos séances de façon à ce que ça colle assez facilement, j'ai envie de dire, pour pas que déjà la séance en elle-même soit un effort, c'est-à-dire d'y aller. Faut faire en sorte de se simplifier la tâche au maximum. Ensuite, ne passez pas d'un manque d'activité, donc d'aucune activité, à une séance tous les jours. Ça colle pas. On va commencer par une à deux heures par semaine, puis trois, et puis petit à petit, on adaptera.
Mais c'est quoi la bonne fréquence en termes déjà de nombre de fois par semaine, si on raisonne comme ça? Quand on se remet à avoir de l'activité.
En fait, ce qu'il faut voir, c'est le nombre de jours de repos consécutifs. C'est-à-dire que si vous faites trois séances par semaine, mais sur trois jours d'affilée, et que vous avez derrière quatre jours de repos consécutifs, c'est pas top. Par contre, si vous avez une séance un jour sur deux, donc lundi, mercredi, vendredi par exemple, là ça devient régulier, et là c'est très intéressant, c'est un rythme qui va être très intéressant. Donc il faut essayer de répartir entre les jours d'entraînement et les jours de repos, de façon à ce que l'organisme ne se remette pas toujours à zéro avant la prochaine séance. Donc deux à trois séances par semaine pour commencer, c'est très bien.
Mais il faut donc, là on raisonne en termes de jours entre les deux pour pouvoir récupérer, c'est ça ?
C'est ça exactement, pour récupérer mais pas trop. Donc justement c'est le but du jeu. 24 à 48 heures de repos entre les séances, c'est très bien. Après si vous faites deux séances par semaine et que vous avez entre la première et la deuxième deux jours de repos, puis après trois jours de repos, pourquoi pas ? L'idée c'est d'équilibrer, d'essayer de trouver un certain équilibre entre les jours de repos et les jours d'entraînement.
Mais pour les gens qui ont quand même, si par exemple vous avez un mois de vacances, si déjà vous vous entraînez qu'un jour sur deux, ça fait pas beaucoup, dans ce cas-là
vous pouvez ajouter, si votre quotidien vous le permet, vous pouvez ajouter, vous pouvez même faire une séance tous les jours si c'est bien organisé. Attention, je précise là-dessus, ne faites pas la même chose tous les jours, ne travaillez pas les mêmes muscles tous les jours, les mêmes activités tous les jours. Donc si c'est bien organisé, vous pouvez très bien vous en sortir avec une heure de sport par jour et terminer le mois en super forme. Hein.
Pourquoi il ne faut pas faire la même activité tous les jours ? Par exemple, si on fait du cardio, c'est pas bien de faire du cardio tous les jours ?
En fait, vous améliorez vos performances sur le après la séance, c'est pas sur le moment de la séance. Sur le moment de la séance, vous allez en fait choquer votre organisme. En gros, de façon à lui envoyer un message et lui faire comprendre que vous avez de nouveaux besoins. Une fois que ces besoins vont devenir quotidiens et récurrents, l'organisme va petit à petit s'y adapter et s'y habituer, et donc se transformer. Mais il se transforme sur les heures qui suivent la séance, voire sur les jours qui suivent la séance. Donc c'est pas sur la séance, c'est pas la séance en elle-même. Si j'ai envie de dire, c'est pas la séance en elle-même qui amène les progrès, c'est ce qui suit derrière. Donc si vous faites une séance tous les jours, vous travaillez tous les jours la même chose, ça devient contre-productif puisque vous ne laissez pas le temps à votre organisme de récupérer ce dont il a besoin.
Alors ça, c'est important. Donc là aussi, par exemple, si vous faites du cardio, vous faites des séances d'une heure ou d'une heure et demie de cardio, ça veut dire que il faut laisser combien de temps à l'organisme pour récupérer?
Alors ça va dépendre de votre expérience, de votre niveau, etc. Mais laissez entre 24 et 48 heures minimum avant de refaire une séance. Vous pouvez laisser un peu plus.
Sinon, c'est contre-productif, c'est ça que vous dites. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de refaire la même séance le lendemain.
Attention, on parle du sport, il y a énormément de paramètres à prendre en compte. C'est-à-dire que selon vos objectifs, ça peut être... si vous êtes sur une perte de poids, par exemple. Si vous êtes sur une perte de poids et que vous arrivez à faire du cardio tous les jours. Si ce cardio-là est assez... est assez varié, l'activité est un peu différente, ça peut le faire. Maintenant, si vous faites un fractionné tous les jours, là, ça va devenir contre-productif parce que finalement, vos performances risquent de diminuer. Vous n'avez pas le temps de récupérer comme il faut, donc vous ne serez pas au max de vos performances sur la séance qui suivra. Maintenant, si vous êtes, on prend un autre cas de figure, vous êtes un athlète de haut niveau, vous préparez une compétition, c'est encore pire, j'ai envie de dire. Parce que là, justement, si vous nuisez à vos performances, ça peut nuire le jour de la compétition. Donc là, vous allez faire super attention à organiser les séances au millimètre, de façon à aller taper sur la nouvelle séance au moment opportun. Dans le sport, il y a un principe qui s'appelle le principe de surcompensation. Donc en fait, comment expliquer ça ? On va tirer sur nos efforts, donc de façon à se mettre dans le rouge au maximum. Et le corps, lui, sur les jours qui vont suivre, va récupérer un peu plus que ce qu'on avait au départ. Et l'idée, c'est de réussir à faire une séance à ce moment-là, où il est au-dessus de ses capacités de base. Si vous attendez trop, vous redescendez à zéro. Si vous attendez pas assez, vous êtes en dessous de zéro déjà. Du coup, ça devient contre-productif. Je ne sais pas si j'ai été clair.
Alors, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un bon moment pour faire une séance.
Exactement.
Si j'ai compris, il y a un moment où vous optimisez finalement votre métabolisme et vos performances.
C'est exactement
Mais
ça.
Mais c'est quoi? C'est 24-48 heures? Comment est-ce qu'on le détermine, ce moment optimal?
C'est entre, si on parle de la même activité, c'est entre 48 et 72 heures, je dirais. Mais ça, c'est à vous de le connaître. Vous allez le connaître avec l'expérience. Plus vous allez pratiquer, plus vous allez vous connaître et vous allez le sentir. Si on parle par exemple de musculation, quelqu'un qui va travailler, quelqu'un qui va travailler les pectoraux lundi et qui va aller travailler le mercredi, il va peut-être sentir qu'il n'a pas assez récupéré entre les deux et va le sentir sur ses performances. Par contre, s'il les a travaillés lundi et qu'il les travaille peut-être juste le lendemain jeudi, bizarrement, il va sentir que là, il y a quelque chose et que les performances sont en constante augmentation. Du coup, pour cet individu-là, ce sera le moment opportun pour repasser sur ce muscle-là. Donc, il aura fallu 3 jours de repos. Ça dépend des gens et ça, vous le connaissez à la longue avec le temps. Vous arrivez à le sentir.
Donc, finalement, c'est de la stratégie.
C'est de la stratégie. C'est énormément de stratégie. C'est énormément de connaissance de soi. Mais ça fait partie aussi des bienfaits du sport. On apprend à se connaître aussi bien physiquement que mentalement puisque l'aspect mental joue aussi. Si vous faites des séances tous les jours, à un moment donné, vous risquez certainement d'avoir une baisse de motivation. Si ça devient très vite routinier et que vous êtes dans un esprit tout de suite, etc., ça va être compliqué. Donc il y a tous ces paramètres-là à prendre en compte.
On profite de l'été en tout cas avec Farid Mebarki, coach sportif spécialisé dans les transformations physiques. Voilà, on se profite de l'été pour se remettre en forme sur Beurre FM.
À votre santé. Reviens dans un instant sur Beurre FM. Midi 13h, à votre santé. À votre santé. Philippe Robichon sur Beurre FM.
Profitez aujourd'hui de la présence de Farid Mebarki, qui est coach sportif spécialisé notamment dans la transformation physique pour commencer à vous préparer à cet été sportif, un été pour se remettre en forme, un été pour avoir un corps de rêve. Et là, j'ai tout faux, parce que c'est pas ça qu'il faut faire. J'ai tout faux.
J'étais en train de me dire où est-ce qu'il nous embarque. Non. Là,
ce sont des objectifs irréalisables.
Vous parlez de quel été, Philippe? Était 2018 ou 2019 là?
Oh, 2020. Pour ce qui me concerne, c'est 2020. Je vais sur 2025.
2025, d'accord. Donc bon, on est bon. On reprend assez tôt.
Quand on reprend une activité, on l'a compris tout à l'heure. Déterminer des objectifs, c'est fondamental.
Exactement. Il faut avoir des petits objectifs. Donc, fixez-vous des petits objectifs, des étapes sur le court terme, mais des objectifs réalistes. Hein. Des objectifs réalistes et réalisables. Donc,
exemple.
Exemple. Vous avez vu à la télé qu'une personne, je prends une émission là, qui s'appelle Relooking Extreme, qui est très très bien d'ailleurs, hein, qui véhicule un très bon message. Vous avez des personnes, par exemple, de 180 kilos qui vont perdre 30 kilos en l'espace de 3 mois. Ne vous dites pas que ça doit être votre objectif. Vous faites 85 kilos, vous voulez perdre du poids. N'imaginez pas perdre 30 kilos en 3 mois. Soyez réaliste. Donc si vous perdez entre 2 et 4 kilos par mois, c'est très bien. C'est très bien, c'est une bonne vitesse. Perdre plus que ça, d'ailleurs, c'est pas forcément très bien pour l'organisme. Il faut laisser le temps au corps de s'habituer à la peau, etc. Donc ça peut créer pas mal de choses. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le corps hein, quand on change, quand on se transforme, quand on perd du poids, etc. C'est assez radical. Hein. Surtout si vous balayez des années de mauvaises
habitudes.
De mauvaises habitudes. Ça se passe pas du jour au lendemain. C'est stressant. Il y a beaucoup de choses dans l'organisme qui vont se passer. Donc fixez-vous des objectifs réalisables. 2 à 4 kilos par mois sur une perte de poids, c'est très bien. Fixez-vous des objectifs autres aussi que les objectifs de base physique, c'est-à-dire à part le poids, regardez vos performances, votre condition générale. Si vous êtes essoufflé en montant des escaliers, par exemple, essayez de jauger la, la difficulté, la différence que vous allez éprouver en, en montant ces escaliers un mois plus tard. Ça peut être sur des exercices. Un exercice, la chaise, par exemple, contre le mur, vous tenez 30 secondes au début, peut-être qu'un mois après, vous tiendrez...
C'est quoi la chaise contre le mur ?
Dos au mur,
ouais.
Les jambes à 90 degrés, les genoux à 90 degrés, les pieds à plat au sol, et on tient. Donc c'est une contraction isométrique, c'est-à-dire que les cuisses sont contractées mais ne bougent pas, les insertions ne bougent pas. Et il faut résister, il faut tenir le plus longtemps possible, c'est un peu comme un gainage pour les abdos, l'exercice de la planche. Donc ça, c'est des exercices très classiques hein, qui permettent de mesurer assez bien votre résistance musculaire. Vous avez un chrono, vous tenez le plus longtemps possible. Si vous tenez autour de 30 secondes, considérez-vous comme quelqu'un de débutant. Si vous tenez une minute, vous êtes plutôt bien. Si vous tenez au-delà d'une minute, vous êtes plutôt très bien.
Bon, vous, c'est votre métier, vous êtes coach. Pourquoi est-ce que quand on démarre une activité, c'est important de pouvoir aller voir un coach pour qu'il déjà participe à la détermination des objectifs ?
Bah pour toutes ces raisons, justement. Il n'y a personne de mieux placé qu'un professionnel pour déterminer justement ses objectifs réalisables, première chose, pour savoir où vous devez aller, avec quel capital vous démarrez exactement. Même si vous pensez vous connaître, en termes d'activité physique, le coach vous connaîtra certainement mieux en très peu de temps. Vous pensez atteindre vos limites, assez rapidement sur un exercice, eh bien, je peux vous assurer que le coach connaît vos limites mieux que vous. Normalement, hein. On part du principe évidemment que c'est un bon coach. Du coup, il sera plus à même d'adapter les entraînements à votre profil. Et c'est là la clé d'un coach, en fait, c'est de pouvoir adapter. Je pense que la qualité principale que doit avoir un coach, c'est ça, c'est cette adaptabilité en fonction des individus qu'il a en face. On ne peut pas faire le même programme à tout le monde, on ne peut pas faire les mêmes entraînements à tout le monde. Il y a beaucoup, beaucoup de paramètres à prendre en compte. Même si on est tous constitués de la même façon, on est tous différents et chaque organisme réagit de la même...
Pas de la même façon.
Pas de la même façon, justement.
Ce qui veut dire que ce qui marche sur toi, ça n'a pas marché sur moi.
Voilà, c'est ça. C'est ça. Et beaucoup n'ont pas compris ça. Des exercices très efficaces sur 90% des gens peuvent être complètement inadapté aux 10% restants, et dans ce cas-là, faut trouver autre chose, faut faire autre chose. Si vous avez des problèmes de genoux, par exemple, on va adapter. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Il y a l'activité métabolique, etc. Donc, toutes ces choses-là font que vous allez avoir un programme personnalisé. Et c'est ce mot qu'il faut surligner, c'est la personnalisation de l'entraînement.
Ouais. Donc ça, c'est important. Si on veut que ça fonctionne, il faut déjà que ce soit fait pour soi-même.
C'est ça, exactement.
Après, il y a aussi, j'ai envie de vous dire, alors, je ne sais pas quelle part vous faites à la notion de plaisir, mais est-ce que pour vous, la notion de plaisir, elle passe avant la notion de résultat, ou alors il faut en baver pour avoir des résultats ?
Très bonne question. La notion de plaisir, elle est très, très, très importante. Elle est très, très importante, mais parfois, elle vient après.
Ouais, d'accord, je vous aime pas, vous.
Non, pour certains, ce sera la base, hein. Mais généralement, pour les non-sportifs, elle viendra après. Et elle viendra avec les résultats. Donc, c'est étroitement lié. Donc, à partir de là, on va mettre en avant les résultats pour aller chercher cette notion de plaisir. Mmh.
Si parce, vous... que, les, si, parce que je vous interromps, Farid, mais beaucoup de gens arrêtent ou s'interrompent parce qu'il n'y a pas de plaisir. Ça fait juste mal, mais ils ne voient pas de résultat et ça ne leur fait pas de plaisir.
Et c'est là la chose importante que vous dites, c'est qu'ils ne voient pas de résultat. Alors, si ça fait mal, ça fait mal. Et puis à un moment donné, il n'y a pas de résultat, on se dit à quoi bon ? Évidemment, on a tendance à baisser les bras.
C'est le pfff.
Exactement.
Et vous faites votre sac, vous dites oh non, là, ça me barbe, j'ai mal à la tête, tiens, aujourd'hui j'y vais pas.
La question à se poser, c'est pourquoi il n'y a pas de résultat ? Est-ce que les entraînements ne sont pas adaptés ? Est-ce qu'il y a un problème au niveau de l'alimentation, au niveau du sommeil, qui est important aussi ? Est-ce que, ou d'où vient ce problème ? Parce que les résultats, ils sont censés être là, c'est systématique, c'est mathématique, c'est comme ça. S'il n'y a pas de résultat, c'est qu'il y a un problème, il faut mettre le doigt dessus. Et je peux vous assurer que quand les résultats sont là, le plaisir naîtra. Et généralement, après, ce plaisir, il reste parce que parce qu'on sait que ça marche, quoi. C'est réaliste. Et c'est réel. C'est ça. C'est réel. Quand on voit les résultats, c'est réel. La perception change complètement. Donc, en réalité, la partie la plus dure, c'est le début. C'est les trois premiers mois. Quand on attend ces résultats avec impatience, quand ils mettent un peu de temps à arriver parce que c'est le début, quand tout ça est nouveau, quand le corps a du mal avec les courbatures, etc., à s'adapter, c'est très, très dur. Mais la première phase, c'est la plus importante. Si vous passez ces trois mois, c'est bon, vous avez gagné.
C'est que vous êtes en train de dire qu'il faut avoir mal.
Il faut avoir mal. On ne va pas véhiculer un message.
Non, mais il faut se préparer à ça. C'est-à-dire que voilà.
Il faut avoir mal.
C'est un mal pour un bien.
Exactement, c'est un mal pour un bien. Attention, il ne faut pas avoir mal. Il ne faut pas se faire mal aux articulations. C'est des bonnes douleurs qu'on va rechercher.
Oui, on parle de courbatures. Oui, c'est vrai, vous avez raison de dire.
On parle de douleurs musculaires. On parle de bonnes choses. C'est ces douleurs-là qui vont amener le corps à évoluer. En fait, c'est le principe même d'un entraînement. Habituer le corps à des choses dont il n'a pas l'habitude au quotidien pour que lui, en retour, s'adapte à ça et se transforme.
Bon, alors, on ne fait pas du sport tous les jours, déjà, si j'ai bien compris ce que vous dites.
On parle aux débutants.
Voilà, aux débutants. On ne fait pas de sport tous les jours. Donc, on laisse à son corps le temps de récupérer.
Le temps, exactement.
Voilà. Donc, et on se fixe des objectifs raisonnables au départ.
Voilà.
On ne part pas en courant à toute allure.
Exactement. On se fixe des petits objectifs réalistes. Mais dans ces petits objectifs-là, on essaye aussi d'avoir un œil qui va plus loin, qui essaye de voir plus loin. Donc même si on s'est fixé, je ne sais pas, moi j'ai 10 kilos à perdre, je vais les perdre dans 3 mois, je vais tout donner pendant 3 mois.
Voilà, j'ai 10 kilos à perdre pendant l'été.
Voilà.
Je l'entends.
Je l'entends aussi, ouais.
Bon, donc voilà, c'est là, je vais profiter de l'été pour perdre mes 10 kilos.
Voilà. Je profite de l'été pour perdre mes 10 kilos, j'ai jusqu'à septembre pour perdre mes 10 kilos. Donc ça, c'est l'objectif de base, c'est le petit objectif réaliste. L'idéal, et c'est très important, c'est que vous réussissiez à voir après, au-delà de ces 3 mois-là. Même si c'est 10 kilos, peu importe en fait, que ces 10 kilos soient perdus ou non d'ailleurs. Il faut que vous puissiez voir au-delà. Parce que si vous avez perdu 10 kilos en l'espace de 2-3 mois, mais que 2 mois plus tard vous les reprenez, où est l'intérêt ?
Bah, vous avez remis vos jeans pour la rentrée déjà.
Ouais, voilà. Donc,
les gens, des fois, ils vont pas plus loin que ça. Hein.
On se découvre vestimentairement pour l'été, donc on prépare ça, c'est ça. Et puis après, on se recouvre en hiver et on reprend du poids.
Ouais.
Bon, c'est une démarche particulière, mais j'ai envie de dire pourquoi pas si ça permet de mettre un pied dedans. Mais en tout cas, c'est pas l'idéal. Il faut essayer de se projeter assez loin. Il faut faire en sorte que ça devienne une hygiène de vie. Après, on n'est pas forcé d'avoir la même cadence. Une fois que les objectifs sont atteints, si vous avez perdu vos 10 kilos en faisant 3-4 séances par semaine, vous pouvez très bien conserver vos acquis en faisant 1-2 séances par semaine derrière. Mais c'est bête de revenir en arrière. Et puis de toute façon, même si vous avez envisagé que 3 mois, vous n'aurez pas envie de revenir en arrière parce qu'il y aura tellement de bénéfices avec tout ça, au-delà de l'aspect physique. Ce sera flagrant, vous sentirez tout ça, vous vous sentirez plus en forme. Vous ne pouvez pas accepter de régresser, de revenir en arrière. Quelque part, après, vous êtes un peu condamné à faire du sport à vie, mais c'est une bonne chose.
Alors Farid, beaucoup de gens se disent que de toute façon, ils ne vont pas faire appel à un coach parce qu'ils n'ont pas les moyens.
Ça, c'est
vrai. Enfin, moi, vous voyez, parce que quand on parle, c'est du coach perso. Ouais. Vous voyez, parce qu'aujourd'hui...
Ça reste... Alors, il faut que je m'exprime bien. Ça reste un luxe. C'est quelque chose de haut de gamme. C'est un service haut de gamme, c'est un accompagnement qui est vraiment très, très, très poussé. c'est un gros travail, donc aussi bien sur le plan alimentaire que sur le plan sportif, sur le plan ostéopathique, etc. Donc moi par exemple, je vais travailler avec différents professionnels, différents spécialistes pour suivre chaque cas. C'est un gros travail. Il y a de la préparation, il y a de l'adaptabilité. Donc il y a des séances qu'on improvise en fonction du moment, etc. L'objectif de la personne devient l'objectif du coach, clairement. Donc moi, quand je suis quelqu'un, son objectif devient le mien et il est hors de question qu'on échoue. Il n'y a pas d'option. Donc on atteindra les objectifs tôt ou tard. Ça, c'est clair et net. Maintenant, faut le temps qui va avec, etc. et les moyens. Donc, c'est un gros travail.
Donc parler d'argent, c'est quand même quelque chose qu'il faut aborder.
Bien sûr. J'y viens. Donc c'est un gros travail, tout ça pour dire que c'est un vrai métier. C'est un gros travail. Il y a les contraintes après environnantes, donc les contraintes de transport, etc. Ça, j'en parle même pas. Donc c'est un métier. C'est ce qu'il faut comprendre avant toute chose. C'est pas un hobby. C'est pas juste un pratiquant de sport qui peut coacher les gens. C'est un vrai métier. Mmh. C'est une chose. En plus, on se forme constamment. Il y a des séminaires, il y a des choses qui prennent du temps, qui coûtent de l'argent, etc., pour se perfectionner tout le jour. Mmh. Donc c'est un réel métier. C'est la première chose.
Donc vous êtes en train de dire que c'est un investissement.
C'est un investissement, c'est ça. Maintenant, donc ce service haut de gamme a un prix. C'est un budget. Mmh. C'est un budget. C'est généralement un gros budget. Mais on tend à cette époque, on tend vers une démocratisation de ces mœurs. Donc avant, le coaching personnalisé, c'était vraiment du luxe réservé à
une génial idée, quoi, qu'il y avait, voilà, son coach avant de préparer une scène, voilà.
C'était réservé à une certaine élite, c'était pas n'importe qui avait son coach, etc. Maintenant, ça devient de plus en plus monnaie courante. Et en fait, on peut pas... J'en viens, il y a une solution sur la fin, attendez, hein. On peut pas casser les prix parce que ce serait décrédibiliser complètement le travail. Et en plus de ça, par rapport au marché, ce serait n'importe quoi. Et même en termes financiers, on est en France, hein, y a beaucoup d'impôts, etc. On s'y retrouverait pas. Donc les prix sont estimés à la valeur du boulot, etc. Ok. Maintenant, il y a toujours une solution. Et là, je m'adresse au petit budget. Il y a toujours une solution. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de partir sur 3-4 séances coachées par semaine et avoir un gros budget mensuel. Vous pouvez avoir un suivi de qualité avec un petit budget, c'est-à-dire en vous calant une heure par semaine, voire une heure toutes les deux semaines.
Alors Farid, qu'est-ce que vous appelez un petit budget, par exemple, pour...
Un petit budget, c'est autour de 100 à 200 euros par mois, je dirais. Ok. 100 à 200, c'est gros budget.
Non, mais attendez, n'interprétez pas la moue que je fais, parce que moi, je multiplie par 12 toujours, voyez.
Ah, vous voyez budget à l'année?
Ah bah oui.
Ah non, on parle de budget mensuel.
Ouais, mensuel.
On parle de budget mensuel. Si ouais. On part par exemple...
Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, c'est pour un petit budget, pour se prendre en charge et pour avoir un coach qui va vraiment vous suivre, c'est, on va dire, dans la version low cost, c'est 100 euros.
C'est ça.
Voilà, low cost.
C'est ça.
Voilà.
C'est
ça. Bon, de toute façon, en parlant de budget, là, il faut qu'on fasse rentrer de l'argent dans les caisses. Il y a de la pub, là. Et on vous retrouve dans un instant, Farid.
À votre santé. Reviens dans un instant sur Beurre FM. Beurre FM. Midi 13h, à votre santé. À votre santé. Philippe Robichon sur Beurre FM.
Voilà, profitez de cet été pour vous mettre en forme. Farid Mebarkit avec nous aujourd'hui, coach sportif. Vous êtes spécialisé, vous, Farid, dans les transformations physiques. Vous avez créé EvoluCorp et aujourd'hui, vous faites les EvoluCamp pour l'été, pour tous ceux qui ont de l'énergie le week-end et qui veulent aller faire du sport en extérieur et en groupe. C'est la solution que vous proposez, donc vous pouvez s'inscrire. On peut s'inscrire sur le site.
Ouais. On peut s'inscrire sur le site evolucorp.com, rubrique EvoluCamp. Vous trouvez toutes les informations dessus, donc l'adresse, l'heure, etc. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me contacter par message, hein, par mail ou sur les réseaux sociaux, la page Facebook EvoluCorp ou Instagram EvoluCorp, pareil. N'hésitez pas pour toute demande, hein, et n'hésitez pas à venir nombreux, c'est un bon moment. Partagez-le en famille, entre amis, c'est vraiment un très très bon moment.
Ça vous permet de tester déjà en plus, de voir si vous aimez ça.
Exactement. Venez essayer, je vous assure, vous ne serez pas déçu, il n'y a jamais de déçu dans ce genre de choses.
Bon, c'est important d'avoir un coach. On est à l'ère du coaching, un petit peu pour tout d'ailleurs, mais en matière de sport, c'est peut-être plus important. En tout cas, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, le sport, c'est d'abord au départ un objectif à définir et à tenir. Et donc, les coachs vous aident à tenir vos objectifs.
Première chose. Ils vous aident à tenir les objectifs. Ensuite, ils vous aident au quotidien à bien faire les choses et à ne pas vous saper la santé, parce que le sport, c'est votre corps que vous utilisez. Si vous l'utilisez mal, vous pouvez vous blesser. Si vous vous blessez, ça peut laisser des séquelles à vie. Donc là, c'est la première chose très importante en pratique. Et c'est là où l'encadrement d'un professionnel va faire toute la différence.
Mmh.
Vous pensez, par exemple, faire du squat régulièrement, mais vous faites votre squat complètement n'importe comment. Vous travaillez d'une part musculairement mal. Et en plus de ça, vous risquez de vous blesser le dos, les genoux, etc. Donc, ça sert à rien. C'est une perte de temps. Je prends un autre exemple, ça peut être tout simplement la bonne exécution d'un exercice. Nombreux pratiquants font du gainage, donc l'exercice de la planche, pour muscler le transverse, qui est le muscle le plus profond des abdominaux, qui est très 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 important, même pour les problèmes de dos, ça vient souvent de là. Bref, donc beaucoup de personnes font du gainage, mais 90-95% le font mal. Et donc on est contre-productif, on passe à côté des bénéfices de l'exercice. Et justement, parfois, le manque de résultats peut venir de là. Donc, c'est dommage de passer du temps à faire du sport.
Pour le faire mal.
Voilà, ouais. D'y mettre de l'énergie, d'y mettre du temps, de la sueur, de l'argent avec l'abonnement à la salle, etc. Et puis finalement, de passer à côté des bénéfices parce qu'on fait pas correctement les exercices. Donc, c'est complètement frustrant. Et c'est dommage. En plus, parfois, les gens ne réalisent même pas. Donc, ils passent à côté de ça, ils viennent tous les jours et ils comprennent pas pourquoi il n'y a pas de résultats. Donc le coach permet d'avoir ce retour-là, ce recul-là. Et puis au-delà de ça, même si les exercices sont bien faits mentalement, vous avez toujours des baisses de motivation, des baisses de régime, de concentration. Dans l'année, ça fait partie du jeu. Même moi aussi, quand je m'entraîne seul, il y a des moments, les exercices, je vais être un peu moins concentré que d'autres moments. Donc si là, je suis accompagné de quelqu'un qui a ce retour-là, ok, on va se remettre dedans, on va se concentrer et on va tirer tous les bénéfices de l'exercice. C'est super important aussi de se concentrer pendant l'exercice sur ce qu'on fait. Et ça fait toute la différence. Arriver à un moment donné, quand vous avez un certain niveau, si vous réalisez que vous devez vous concentrer sur les muscles en question, sur la contraction volontaire des muscles que vous travaillez, ça fait toute la différence et ça peut vous permettre de passer une étape.
Mmh.
Donc non, à tous les compartiments, le coach devrait être indispensable en réalité. Et pour n'importe qui, hein. Tout le monde ne le réalise pas, mais tout le monde en a besoin. Et même un coach a besoin d'un coach, hein. N'importe qui devrait s'entraîner avec quelqu'un de compétent, diplômé et qui a ce recul-là pour permettre de garder le pied dedans.
En tout cas, une fois que les gens ont essayé, ils ont du mal à s'en passer. Ce que nous on essaie de comprendre aujourd'hui, c'est d'abord comment tenir cette volonté qui peut se manifester à un moment donné où des gens sont prêts à tout casser, comment la tenir dans la durée.
C'est ça la grande question.
Et c'est comment tenir cette motivation au-delà des 15 premiers jours où il fait beau dans l'année.
C'est là la grande question, et c'est là aussi où un coach peut être super intéressant, parce que justement vous allez casser la routine. Il peut sentir ça, il peut sentir cette baisse de régime, et du coup pallier à ça en cassant la routine, en changeant par exemple d'environnement, en changeant les entraînements, en vous proposant des entraînements en groupe ou ce genre de choses là, ou bien tout simplement si ça vient d'un manque de résultats, aller chercher d'autres résultats, des choses différentes, des motivations peut-être plus personnelles, des motivations psychologiques, des motivations sur des événements qui vous sont arrivés, etc. Donc ça peut aller au-delà, et c'est ce qui vous fait tenir. Et puis quand la magie du sport opère, tous les bienfaits sont flagrants, et quand on le réalise, on peut plus s'arrêter en fait. On peut plus s'arrêter. Même si vous arrêtez, vous reprendrez, c'est inévitable. 9 fois sur 10, vous reprendrez.
Bon, quelles sont les erreurs à éviter pour ceux qui nous écoutent ? Donc ça, vous ne le faites pas.
Ce que vous ne faites pas, c'est être trop pressé. C'est difficile. Je veux pas vendre du rêve en fait aux auditeurs. Ne soyez pas trop pressé, c'est ça la plus grande erreur. Ne soyez pas trop pressé, ne vous dites pas je vais tout donner pendant un mois et dans un mois j'ai des tablettes pour aller à la plage au mois d'août. Là vous allez être déçu et vous risquez justement de garder
votre t-shirt.
Voilà, de garder le t-shirt, de tomber de haut, et c'est une désillusion, et du coup vous allez dire j'ai fait du sport, j'ai tout essayé, ça marche pas. Non, vous avez pas fait du sport.
Ça c'est quelque chose qu'on entend bien souvent, hein. Ah. J'ai tout essayé mais ça fonctionne pas.
J'ai tout essayé, mais si vous essayez tout, mais pas correctement. Si vous avez un marteau, mais vous essayez de visser une vis avec, ça marchera pas. Donc, vous avez essayé le marteau, certes, mais pas dans l'usage qui va avec. Donc ça marche pas. Non, si vous essayez tout correctement, ça fonctionne, c'est mathématique. Pour n'importe qui, c'est la même chose. C'est pareil pour tout le monde. Donc généralement, ce discours-là, on l'entend souvent, mais en réalité, malheureusement, vous pensez avoir tout essayé. Et je comprends ce désarroi, je comprends cette forme de désespoir, mais vous avez certainement pas eu les bons outils au bon moment. Les bons outils adaptés. Et c'est pas parce que vous avez fait la même chose que le voisin, ça a marché sur le voisin et pas sur vous, que ça y est, vous êtes condamné. Non, faut trouver ce qui vous correspond, ce qui vous convient. Et il y a toujours quelque chose.
On dit que le corps a une mémoire. Qu'est-ce que ça veut dire? En termes de sport, c'est-à-dire que vous savez qu'il y a des gens quand ils vont en âge, ils ont été sportifs, ils ont fait même du sport à très haut niveau. Bon, pendant 20 ans, ils n'ont pas fait de sport. Ils veulent se remettre. Est-ce que le corps se souvient de ça?
Le corps se souvient de ça. En fait, ce qui se passe, c'est que quand vous pratiquez du sport assez régulièrement, il va se passer énormément, énormément de choses au niveau de l'organisme, au niveau des hormones, au niveau du squelette, de la masse musculaire, au niveau du psychisme, au niveau de tout ça. Et c'est des bonnes choses. C'est des bonnes choses qui vont marquer votre esprit et votre organisme. Donc quand vous arrêtez et que vous perdez ces choses-là, ça laisse quand même une empreinte. Ça laisse une empreinte. Donc même si vous reprenez plusieurs mois, plusieurs années après, votre corps va se souvenir de cette empreinte-là, va reconnaître ces bienfaits-là, et du coup va réussir à s'adapter plus vite que quand vous aviez commencé au tout début. Parce qu'il reconnaît. Il reconnaît, c'est tout simplement ça. C'est plus inconnu en fait. Il reconnaît, il sait qu'il a déjà vécu ça, il sait tous les bienfaits que ça lui apporte, du coup il va se mettre dedans beaucoup plus vite.
Même s'il a des courbatures quand même.
Même s'il a des courbatures.
Évidemment. Donc c'est pas perdu, hein. Si vous avez arrêté de faire du sport, vous pouvez y remettre.
C'est pas perdu.
Bon.
Je voulais revenir, Philippe, sur les tarifs. Il y a autre chose qui peut être une très très bonne solution pour les petits budgets, c'est les séances en petits groupes, en small group. Je mets l'accent dessus d'ailleurs en ce moment sur les réseaux.
Mais small group, c'est mieux de le dire en anglais. En fait, c'est la douloureuse est plus facile à passer si on dit en anglais.
Small group. Ouais, c'est monnaie courante. Ça s'appelle souvent comme ça en fait. On parle souvent de small group. Donc c'est des petits groupes de 3-4 personnes, pas plus. Sinon, ça devient une séance trop collective et dans ce cas-là, le travail est un peu moins précis. Mais du coup, ça permet d'avoir des coachings en petits comités pour des frais partagés par 4. Donc ça peut faire des séances à 10-15 euros de l'heure. Et ça, c'est énorme, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et ça peut être la solution pour un petit budget, avoir un bon suivi pour un petit budget. Et en plus de ça, si vous montez votre groupe avec des amis, des proches autour de vous, ça peut être un très très bon moment. Ça peut être une dynamique de groupe qui va vous soutenir au quotidien. J'essaie de m'exprimer clairement. Si vous avez un groupe de potes que vous voyez régulièrement au quotidien, et allez, à 4, vous décidez de vous mettre au sport et de faire des coachings, etc. Donc déjà, dans les séances, vous inscrivez sur une démarche qui va être soudée. Vous serez soutenu par ces amis-là. Et en plus de ça, au quotidien, sur les efforts autres que le sport, sur l'alimentation, etc., vous allez pouvoir vous suivre les uns les autres et vous soutenir. Ça, c'est super intéressant. Le small group, ça peut être très, très, très intéressant.
Voilà, il faut au moins simplement tomber sur des gens qui tiennent sur la durée aussi, c'est ça.
C'est ça, c'est ça. Souvent, c'est ce qu'on me dit. Ouais, mais les gens autour de moi sont pas motivés. Parfois, faut juste les inciter à venir essayer une petite séance. Puis vous verrez, en plus, la notion de plaisir. On parlait de plaisir. La notion de plaisir en groupe, elle est rapidement atteinte. Hein. Dès la première séance, vous passez un bon moment, vous avez bien travaillé, vous en rendez même pas compte sur le moment. Et puis après, une fois que la séance est terminée, ah ouais, ok, c'était bien en fait. Vivement la prochaine.
Aujourd'hui, pour des gens qui s'inscrivent dans une démarche de remise en forme et de perte de poids, quelle est l'activité qui est la plus, on va dire, rentable? C'est quoi? C'est le cycling, la zumba, le training?
Pour brûler des calories,
voilà.
C'est la fréquence cardiaque qui est déterminante. Donc en fait, je suis désolé, je réponds pas à la question.
Moi, je veux le truc toujours. Ouais, allez, sur une heure. Quel est l'exercice que je vais faire qui va me faire
Il y a des exercices en fait qui sont très intenses. Il y a la boxe qui fait partie des sports les plus complets parce que c'est très intense. Il y a la boxe. Il y a après ça peut être, si on parle d'exercice cardio pur, allez, je vais vous citer un top 3 qu'on trouve dans les salles. Ça va être la course, la corde à sauter. Et l'escalier. On trouve de plus en plus d'escaliers.
Alors on voit ces machines escaliers électriques.
C'est excellent. C'est excellent. Ça peut être une très très bonne alternative à la course.
Mais avant, il y avait le stepper, ce qu'on appelait les petits pas. C'est différent?
C'est un peu différent. C'est un petit peu différent. Après, le stepper peut être très efficace. Stepper, elliptique, vélo, toutes les activités peuvent être efficaces à condition que vous teniez la même fréquence cardiaque. C'est là où je veux en venir. Donc en fait, c'est pas l'activité qui est déterminante. C'est la vitesse à laquelle votre cœur va battre pendant cette activité-là. Et selon votre capacité cardiovasculaire, vous avez une certaine marge à tenir, une certaine cadence à avoir pour cibler les graisses et devenir efficient. Et du coup, ça passe par un test. D'où, encore une fois, l'intérêt d'avoir un coach. Si vous avez un coach et que vous passez un test cardio, il pourra savoir à quelle vitesse exactement, à quelle intensité faire vos exercices pour aller cibler les graisses et donc brûler un maximum de graisse en un minimum de temps. Donc c'est pas tant l'activité, mais c'est surtout la façon dont vous allez la faire.
C'est-à-dire que si vous faites sans ça, c'est pas efficace.
C'est pas efficace, c'est pas précis, c'est moins précis, ce sera aléatoire. On va le faire au feeling, on va le faire à la sensation. Si vous faites un fractionné, par exemple, à la sensation, un fractionné, donc c'est, vous alternez, si on parle d'un fractionné sur la course, vous alternez une vitesse de footing très lente et une vitesse de sprint. Si vous le faites au feeling, vous allez courir très lentement, puis sprinter le plus vite possible. Certainement, à la sensation, vous pensez être dans l'eau, etc. Maintenant, si vous avez fait un test cardiovasculaire, vous allez pouvoir connaître les vitesses précises de cette activité-là. Donc, la vitesse à laquelle vous allez devoir récupérer et la vitesse à laquelle vous allez devoir sprinter. Et d'où l'intérêt d'avoir ce test-là.
Donc ça, c'est important de pouvoir le mesurer pour, encore une fois, être efficace.
C'est important, ça permet aussi de sortir de sa zone de confort. Il y a des personnes, quand je les ai prises en main, qui étaient déjà habituées, qui faisaient ce genre d'exercice cardiovasculaire, mais qui n'avaient plus de résultats. Et une fois qu'on a passé le test cardiovasculaire, là, on s'est rendu compte qu'en réalité, ces personnes-là étaient en dessous de leur performance. Donc, il fallait un peu augmenter la cadence, etc. Donc, ça permet vraiment d'avoir un retour précis des capacités de chaque individu.
Donc c'est le moment, alors on y va, c'est l'été, plutôt que de regarder le foot à la télévision. Alors on peut faire du sport en regardant la télé, hein, aujourd'hui.
Ouais, bien sûr.
Dans les salles, il y a la télé partout. Est-ce que le fait d'avoir des écrans de télé partout, ça, c'est moins efficace quand on fait les exercices?
Non, pas forcément, en fait. Certaines personnes ont besoin de diversion.
Parce que vous avez pas dit tout à l'heure qu'il fallait être concentré sur ce qu'on fait?
Oui, mais c'est pas. Alors concentré, c'est plus sur les efforts musculaires. La télé, ça va servir surtout dans les efforts cardiovasculaires. Vous partez sur un footing de 3 quarts d'heure sur le tapis, le paysage ne bouge pas, vous êtes là pendant 45 minutes, ça peut paraître long avant même d'avoir commencé. Donc en fait, la télé, elle est surtout là pour détourner un peu votre esprit, vous concentrer sur autre chose et faire un peu diversion. Des personnes qui cachent aussi avec leur serviette le temps. Pour décrocher un peu du temps et penser à autre chose. Non, à ce moment-là, sur les exercices cardio d'intensité modérée, au contraire, plutôt que de se concentrer dessus, ça peut être bien de laisser évader son esprit et de penser à autre chose, de se ressourcer psychologiquement et de faire un peu le vide sur tout ça.
Evolucorp.com, c'est Evolue, c'est Evolucorp.com pour toutes les informations. Et si vous voulez participer aux Evolucamps de l'été, merci Farid d'avoir été avec nous.
Merci à vous, je vous attends nombreux aux Evolucamps.
Midi 13h, à votre santé. À votre santé. Philippe Robichon sur Beurre FM. Sur Beurre.